Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là. Vous êtes bien nombreux ce soir. Ça fait plaisir. On vous accueille, comme d'habitude, pour ces Jeudis des Colibris. Je vous rappelle que les soirées des Jeudis des Colibris, donc, sont organisées par le groupe local des Colibris d'Alès, en partenariat avec la cantine solidaire de Rochebelle, donc, du quartier où nous nous trouvons, où il y a toute une dynamique associative qui s'est mise en place depuis plusieurs années. Il y a une épicerie associative qui s'est montée aussi sur Rochebelle. Ils ont récupéré l'épicerie qui fermait, puisque les commerces ont tendance à disparaître dans le quartier. Et donc, c'est un collectif d'habitants qui a récupéré l'épicerie et qui l'a fait tourner. Donc voilà, toute une dynamique associative. Et nous, on vient aussi faire nos soirées des Colibris ici pour profiter de cet élan et y participer, ajouter notre petite goutte d'eau comme le font les Colibris. Voilà. Aujourd'hui, on vous accueille pour parler d'un sujet très important. C'est le sujet donc de l'agriculture, de comment on se nourrit et des acteurs de l'agriculture et notamment les nouveaux paysans, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas issus du monde agricole et qui font le choix courageux de s'installer dans des activités agricoles diverses et variées, malgré le manque de perspectives, on va dire, financières et économiques de leurs activités. Donc ce sont des gens engagés, passionnés, qui y croient en leurs valeurs, en leurs convictions. Et on va pouvoir échanger avec eux ce soir et découvrir un petit peu plus quels nouveaux modèles ils proposent et à quels enjeux de société répondent leurs activités. Donc, je vous les présente. Guillaume Massin, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, toi, tu es accompagnateur des porteurs de projets. Hein, donc, en gros, c'est ceux qui veulent s'installer. Toi, tu travailles au sein de l'ADEARG. ADEARG, Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural, dans le Gard.
Bonsoir tout le monde. Je suis le premier à parler, mais je ne suis pas paysan.
Toi, tu accompagnes les paysans dans leur installation.
Voilà, moi je fais partie d'une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Elle a été montée à l'origine par des paysans d'un syndicat qui s'appelle la Confédération Paysanne, et qui ont pris l'initiative de créer cette association en constatant qu'autour d'eux, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des projets d'installation, de création d'activités en milieu rural et plus spécialement en agriculture. Et dans le contexte agricole d'il y a 20 ans, on va dire que ce type de public n'était pas forcément la priorité des institutions qui s'occupent de l'installation agricole. Et voilà, donc ces paysans de la Confédération Paysanne croyaient que ça valait le coup quand même de donner leur chance à ces personnes, que leur projet finalement valait le coup, n'était pas moins recevable que ceux des autres qui étaient peut-être plus classiques et plus faciles, plus dans la ligne de ce qui se faisait, mais pour autant voilà que ces projets pouvaient répondre notamment à des problématiques de société, à d'autres façons de voir l'agriculture, et que donc ça valait le coup de leur donner leur chance.
Et c'est ce qui a donné naissance à la ADEARG.
Exactement.
Ok, merci pour cette présentation, Guillaume. On va présenter également nos deux autres intervenants. Alors, Thomas Marcilly.
Oui, bonsoir.
Ouais, salut Thomas. Donc toi, tu es berger nomade.
Voilà, moi je suis berger avec un troupeau nomade depuis 3 ans maintenant.
Oui, du côté d'Anduze.
Autour d'Anduze, voilà.
Voilà. Donc, je vois des regards intrigués dans le public. Mais qu'est-ce que c'est qu'un berger nomade? Tout ça, tout ça. Ben, on va en savoir peut-être un peu plus. Tu peux déjà nous dire 2-3 mots.
Bah, pour moi, le constat était simple. Je veux être éleveur. Je suis passionné de ça depuis longtemps. Je n'ai absolument pas les moyens de reproduire un schéma classique parce que le foncier, une ferme, enfin, c'est inimaginable.
Ouais, en termes d'investissement.
Donc voilà, les choses ont fait que on est dans une région où les troupeaux, il y en avait beaucoup. Être nomade, ce n'était pas si fou que ça. Enfin, pour les troupeaux, en tout cas. Et puis, surtout, en fait, des zones à pâturer, il y en a aussi beaucoup. Donc, j'ai refait quelque chose qui était traditionnel et
qui se faisait avant.
Oublié, voilà.
Parce que traditionnellement, le berger était nomade.
Voilà, forcé de chercher l'alimentation au gré des saisons. Donc, j'ai simplement fait ça et ça m'a permis de m'installer à moindre coût par rapport à faire de l'élevage.
Alors maintenant, on va pouvoir faire le point avec toi 3 ans après, qu'en est-il? Et effectivement, la beauté de l'expérience et aussi ses limites, on va voir ça. Mais d'abord, on va présenter notre troisième et dernier intervenant, David Sauté.
Bonsoir.
Bonsoir David. Et toi, t'es maraîcher.
Moi, je suis maraîcher, pas très loin d'Anduze, sur la commune de Mialet, depuis 3 ans aussi, installé. maraîcher un peu spécial parce que je suis sur une très très petite surface et je ne suis pas mécanisé.
Petite surface, c'est-à-dire ?
Petite surface, c'est 2500 m².
Ok.
Je pense qu'on n'est pas très nombreux à cultiver sur cette surface-là. Donc, il y a toute une logique derrière qui est nécessaire de mettre en œuvre pour arriver à essayer de sortir une production qui
suffisante.
Soit convenable.
Mmh, d'accord. Par contre, on peut comprendre qu'effectivement, la mécanisation n'est pas forcément, ne soit pas très utile sur une aussi petite surface.
Et pour mon cas, elle n'est pas forcément très utile, sauf sur certaines opérations où ça me soulagerait bien. Et en tout cas, j'ai mis en place un système et réfléchi à des techniques de culture qui nécessitent peu de travail en laissant le sol et la vie du sol travailler pour moi.
Qui s'appelle ces techniques ?
La technique que j'utilise et où je me sens proche, c'est la technique qui s'appelle le maraîchage sur sol vivant.
D'accord.
Qui est l'idée d'arrêter de travailler son sol.
Mmh, d'accord. Merci beaucoup pour cette présentation succincte des uns et des autres. On va donner la parole donc à Guillaume Massin pour commencer avec donc le travail que vous faites au sein de la DEARG pour aider ces nouveaux paysans à s'installer, quel que soit leur projet. Ce travail de pont que vous faites finalement entre le rêve de certains et la réalité. Donc là, il y a un travail de... Comment dire ?
Il y a un travail de mise en lien avec la réalité. Alors, enfin,
parfois de désillusion aussi, d'amener certainement des désillusions.
Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sonnent à notre porte.
D'accord.
Et qui arrivent avec des idées d'installation, des gens qui veulent être paysans, des gens qui... Alors souvent, c'est des reconversions professionnelles. Maintenant, le public, il a évolué depuis 20 ans, mais... Mais là, depuis quelques années, on constate qu'on a quand même de plus en plus de gens qui ont eu une vie professionnelle avant, qui travaillaient dans diverses choses à droite à gauche, qui ont pu bien gagner leur vie aussi, des fois. Mm-hmm. Hein.
Bah, ça va être le cas de David et Thomas, ils vont pouvoir nous en parler, je pense.
Et qui se présentent là, voilà, quoi, dans une idée de reconversion. Donc, c'est des gens qui souvent sont en recherche de sens.
D'accord.
Voilà, par rapport à leur activité professionnelle et qui... Enfin, c'est vrai que derrière le mot paysan, derrière l'agriculture, on voit souvent des jolies images. Donc voilà, quoi, on voit des jolies images, mais on n'a pas forcément non plus le sens de ce que c'est que ce métier.
Oui.
Donc, vu de l'extérieur, ça a l'air vachement sympa, on est dehors, au soleil, etc. Il y a quand même quelques contraintes. Donc un des premiers travaux que nous on fait avec eux, c'est d'essayer de leur faire découvrir ces réalités-là, de leur faire découvrir les complexités qui sont liées à l'exercice d'une activité en tant qu'indépendant, c'est pas la même chose que d'être salarié non plus.
Vous leur parlez rentabilité économique ?
À un moment, il faut bien.
Et alors du coup, là c'est certainement un sujet complexe.
C'est un sujet complexe, d'autant que nous les gens qui viennent effectivement sont des gens qui sont pas issus du milieu agricole, donc
oui.
Avec pas mal de freins déjà à la base, des questions pour l'accès au foncier, hein, je pense que Thomas...
Oui, je veux bien qu'on fasse le point là-dessus, c'est-à-dire en quoi quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole, il a beaucoup plus de... c'est beaucoup plus compliqué sa situation que pour quelqu'un qui est issu du monde agricole. Est-ce que tu peux nous le tracer rapidement, les raisons ?
Grosso modo, avant, on peut remonter à loin dans le temps, quoi. Il y a je sais pas combien de dizaines d'années, il y avait 90% de la population française qui était paysanne. Et puis bon, la révolution industrielle est passée par là... les Trente Glorieuses, etc. Donc en fait, la population paysanne
ne cesse de décliner.
Mm-hmm. Voilà, quoi. Aujourd'hui, on doit être à peut-être 500 000 paysans en France. Et traditionnellement, du coup, le mécanisme de l'installation agricole, c'était de reprendre la ferme des parents.
Et oui.
Donc le
les
foncier, il était là, il était en
mm-hmm.
héritage. Bon, c'était relativement simple.
Mm-hmm.
Après, quand on arrive aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de terre et qui veut s'installer en agriculture, il faut qu'il accède au foncier.
Qu'il trouve
donc,
des terres.
Alors déjà qu'il en trouve.
Oui.
Et après, soit il a des moyens et à ce moment-là, il peut les acheter, soit il n'en a pas et il faut qu'il arrive à trouver quelqu'un qui est prêt à lui louer sa terre.
Oui.
À lui, qui
à
vient
lui.
De
à
nulle
lui
part.
Qui vient d'ailleurs et qui...
qu'on ne connaît pas dans le milieu.
Uh-huh.
Qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire.
Uh-huh.
Et donc, il y a enfin voilà, quoi. Comment on fait pour gagner la confiance de quelqu'un pour qu'il soit prêt à céder sa terre.
Bien sûr. Et vous pouvez aider à ce niveau-là parce que du coup, j'imagine que ça ne doit pas être simple non plus.
Non, ce n'est pas simple. Alors
ouais. Parce que vous n'avez pas forcément non plus une reconnaissance auprès de tout le monde agricole, la DEARG.
Ouais, et puis... Enfin, moi, je pense vraiment que le fait de confier sa terre à quelqu'un, il y a une Je dis confier, quoi.
Il y a vraiment une histoire de confiance émotionnelle là-dedans.
Enfin, même pour quelqu'un qui a été paysan et qui croit que c'est bien, qu'il faut transmettre, qu'il faut que l'activité soit reprise, etc. Bah, même pour ces gens-là, c'est difficile de lâcher leur terre sur laquelle ils ont travaillé toute leur vie. Ils en ont fait quelque chose, ils ont réussi, plus ou moins, etc. Et la confier à quelqu'un d'autre, bah, c'est pas facile, quoi.
Et alors, ce travail de confiance, comment il s'établit alors? Bah, après, pour chacun, c'est différent, j'imagine. Ça dépend des personnalités, ça dépend de tout ça. Mais en tout cas, vous, vous pouvez être un petit peu source de conseils.
Ce qu'on fait, à travers l'accompagnement qu'on propose aux personnes, c'est d'essayer de gagner en crédibilité, quoi.
Ouais. Et comment on gagne en crédibilité?
Gagner en crédibilité, bah, pour nous, ça passe par, par être capable d'expliquer ce qu'on veut faire.
Oui, bien sûr.
Et d'une manière ou d'une autre, d'arriver à démontrer que c'est possible, quoi.
Ouais. Et de montrer que peut-être déjà, on est déjà actif et que déjà...
Ouais, voilà. Alors après, ce qu'on constate assez souvent, c'est que finalement, accéder au foncier au début, c'est difficile. Et puis dès qu'on commence à être installé quelque part... même sur une petite surface, et ben c'est là que des fois les portes s'ouvrent.
Voilà, moi aussi j'ai du terrain, etc. Bah tiens,
mais moi j'ai une petite parcelle.
Ah, tu veux pas t'occuper de mes oliviers, tu veux pas t'occuper de... et puis au final, ouais.
Donc les portes s'ouvrent. Après, c'est pas dit qu'en cumulant tout ça, on arrive aussi à faire une activité qui soit viable, parce que bon voilà, moi si j'ai un petit morceau de terre ici, un petit morceau de terre là-bas, un autre à 3 km par là, c'est pas non plus la panacée pour réussir à monter quelque chose qui soit viable et vivable.
Et pourtant, nombreux sont ceux qui rêvent de ça aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir une activité diversifiée, comme on l'avait avant. Parce que là, d'un coup, ça a du sens. J'ai un peu d'animaux, j'ai un peu de... Et puis, ça crée une boucle de... Comment dire ? On voit bien qu'au sein d'une ferme, tout a son sens et qu'effectivement, les animaux participent à amender la terre qui participe, etc. Et du coup, j'imagine que nombre d'entre les porteurs de projets qui viennent vous voir peuvent avoir ces rêves d'une activité très diversifiée, mais du coup qui n'est pas rentable.
Effectivement, c'est un beau rêve.
Ouais.
Après, pour pouvoir le mettre en place, en fait, il faut avoir quand même beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Parce que mener de front plusieurs activités pour lesquelles il faut réaliser des investissements qui sont différents, et pour des ateliers, enfin pour des volumes d'activités qui vont être restreints à chaque fois, finalement, bah, ça fait des fois des gros volumes d'investissements qui sont... difficile à rentabiliser par l'activité agricole, quoi.
Est-ce que vous avez des porteurs de projets qui finalement vous disent « Eh ben tant pis, je ne chercherai pas à en faire une activité économique puisque c'est comme ça, je vais juste le faire pour moi. »
On en a, ouais. Nous, après, moi, quand je dis que je suis accompagnateur de porteurs de projets plus que de projets, c'est que...
Vous accompagnez les personnes.
C'est qu'on
avant
accompagne
tout.
Les personnes, donc on les aide à faire ce que... elles ont envie de faire. Mm-hmm. On va pas leur dire non, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas du tout notre approche.
Ouais. Du coup, on voit bien qu'effectivement, en accompagnant les personnes, comme tu disais, ces personnes-là, une fois qu'elles sont installées, qu'elles ont réussi à mettre en place quelque chose qui tourne, bah, y a des portes qui s'ouvrent, et ça peut être des portes qui s'ouvrent pour d'autres qui arrivent derrière. Donc, avec ce réseau que vous créez, peut-être vous êtes...
Ouais, effectivement, il y a un aspect cercle vertueux, enfin, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des gens qui ont réussi à créer leur activité dans divers territoires et qui contribuent à montrer que voilà, travailler différemment de ce qu'on voit traditionnellement, bah, finalement, ça marche. Ça peut apporter des choses qui sont positives pour les communes dans lesquelles ça se passe, etc. Et donc, voilà, quoi, on a globalement, je pense, un regard qui est plus bienveillant qu'avant. Par rapport à l'arrivée de projets un peu hors normes.
Oui.
Après, ça lève pas complètement... Enfin, ça ne lève pas le verrou foncier, parce que le verrou foncier, c'est pas... que le territoire soit accueillant, c'est une chose, mais après, c'est
les
le
terrains,
propriétaire.
Les terrains, voilà, appartiennent... Voilà, on a vraiment la question... Le verrou foncier, c'est la question de la propriété privée, n'est-ce pas?
Ouais,
et que même si, effectivement, il y a une volonté dans une commune globale des habitants qu'il y ait un berger qui s'installe, qu'il y ait des maraîchers, qu'il y ait des producteurs, ok, mais qui est d'accord pour donner des terres, mettre des terres à disposition? Et là, c'est d'un coup, il y a peut-être moins de volontaires.
Ouais, en particulier dans notre région, c'est vrai que les communes, elles ne sont pas propriétaires de grand-chose.
Oui, tout à fait.
Donc le levier d'action, quand bien même il y a des, il y a des communautés de communes, il y a des communes qui sont volontaires et qui ont envie de faire des choses, mais...
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les sonneurs. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière, tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Des arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester en cabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, danser.
Vous écoutez le chant des colibris et c'était le groupe québécois Dégénération, en un mot, eh oui, avec le titre Mes aïeux, dont le clip est à voir, je vous le recommande. Nous parlons de néo-paysannerie aujourd'hui et des enjeux de société auxquels tentent de répondre ces nouveaux paysans passionnés qui osent se lancer. J'aimerais vraiment qu'on inscrive notre conversation dans une optique d'enjeux de société, parce que pour moi, il s'agit vraiment de ça, là, ce sujet. On parlait tout à l'heure du fait que avant, bah, comme tu disais, il y avait 90% de paysans, donc le territoire entier était modelé de la main de l'homme et de la main des bêtes, de l'élevage, etc. Et tout cela, on en a les traces, hein, de nos faillisses, nos paysages qui ont été sculptés comme ça. Et malheureusement, le fait que, bah, il y ait de moins en moins d'agriculteurs, de paysans, etc., on voit ces paysages s'effriter, s'émurer, s'ébouler, etc. Et puis des zones qui avant étaient accessibles, vivables, traversables, qui sont en train de se refermer, c'est ça, les milieux qui se referment.
Ouais, fermeture des milieux.
Voilà, des milieux qui se referment, qui redeviennent sauvages et en fait où pousse le maquis là, et où on ne peut plus passer finalement jusque-là. Et donc on comprend que dans des zones assez rurales, plus reculées, on va dire dans la montagne, etc., les communes, est vraiment, c'est un gros enjeu pour elles qu'il y ait des installations.
Ouais, d'autant que après une activité agricole sur la commune, alors c'est, enfin déjà il y a des gens qui travaillent et qui sont là, quoi. C'est quand même des activités qui sont non délocalisables aujourd'hui. C'est important de le souligner.
Bien sûr, avec une production de nourriture locale.
Avec quelque chose qui est produit localement, mais après, c'est une activité économique qui elle-même a ses propres besoins. Hein. Je veux dire, le paysan sur place, il a besoin aussi d'avoir un mécano pas trop loin pour venir réparer son tracteur. Il va acheter divers trucs à la coopérative du coin parce qu'il faut qu'il alimente ses bêtes, etc.
Et après...
Donc ça crée quand même une vie économique locale.
Bien sûr.
Et pas que... Enfin, il y a la question des débouchés, de pouvoir avoir son petit marché, etc. Mais il y a aussi, un paysan qui est là, c'est aussi d'autres artisans qui vont pouvoir exercer leur activité localement. Quoi.
Alors, un autre point que je voudrais souligner avant de passer la parole à nos deux autres invités, c'est la question en fait, d'aujourd'hui d'une agriculture qui vit complètement sous perfusion des aides agricoles, des travailleurs dont les activités ne sont pas rentables en dehors de ces aides-là, et ces aides en plus qui sont complètement déconnectées de la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont installés sur des milieux où a priori il y a à manger pour leurs bêtes, où tout va bien, mais où les critères d'allocation de ces aides décident depuis leur bureau que là c'est pas un endroit où il y a suffisamment à manger pour les animaux, etc. Et du coup il y a un énorme décalage qui pousserait, et là on va pouvoir donner la parole tout de suite à Thomas du coup sur ce sujet, parce que Thomas, c'est ça qui se passe pour toi, t'es très bien installé là où tu es, tes bêtes ont assez à manger, seulement ils considèrent de là-haut que non, que là dans les plaines c'est pas un endroit pour faire...
Si, c'est un endroit qui est possible, mais c'est un endroit qui est pas subventionné comme d'autres. Il y a plusieurs classements par rapport à la PAC, et plus on est dans une zone riche, favorisée, et moins on va avoir d'aide. Moi, ça fait 3 ans que j'ai pas pu avoir des aides PAC, et ça fait 3 ans que j'ai pas de salaire, alors que je valorise mon produit en direct, que j'ai aucun interlocuteur, que j'ai un prix un peu plus haut que certains collègues.
Tu voulais dire interlocuteur intermédiaire.
Intermédiaire,
ouais.
Depuis peu, je peux faire abattre mes bêtes moi-même. Enfin,
donc, a priori, tu es économe. Quoi.
Voilà, c'est assez difficile de...
d'être plus économe.
J'ai très peu de frais, à part mon essence. Vraiment, j'ai très peu d'investissements à entretenir ou à faire. Et mon activité dégage zéro. Mon activité, ça suffit à elle-même. Donc, j'ai pas calculé combien il faudrait que je vende ma viande pour en vivre, mais il faut que je double le prix. C'est quelque chose qui serait pas envisageable.
Qui serait pas envisageable parce que tu trouverais pas de consommateur pour te la payer, ce prix-là.
Voilà. Donc maintenant, cherchant à faire une installation un peu plus classique avec une demande d'aide, etc., il faut que je me déplace sur des zones montagnes. Enfin, mon activité est amenée à se déplacer sur les zones montagnes et en train de le faire. Des zones beaucoup plus difficiles physiquement pour moi, pour les bêtes et pour la ressource. Donc je suis en train d'abandonner des terrains magnifiques.
Voilà, sachant que c'est totalement
absurde. Là où il y a plein d'herbes, où j'étais vraiment dans une... Enfin, une facilité, un confort pour les bêtes.
Non seulement pour toi, mais aussi pour les gens à qui appartiennent ces terrains. Parce que du coup, ça, tu peux expliquer un petit peu comment tu travailles. Tu travailles dans les vignes, donc, notamment.
Voilà, l'initiative est partie de là, de viticulteurs qui voulaient nettoyer leurs vignes bio en hiver par les brebis. Et ça, je continue à le faire. C'est pas tellement ça le problème. Mais du coup, autour, c'était d'aller... étant conscient de la problématique du foncier qu'on évoquait, ne pouvant pas y accéder et ne cherchant pas forcément à demander des contrats aux gens parce que c'était aussi quelque chose d'assez compliqué, je me suis installé avec quelques promesses et puis c'était un peu du jour au lendemain, je savais pas trop où aller avec mes brebis. Puis voilà, petit à petit, les gens ont eu confiance, ont vu ce que je faisais, que finalement le troupeau il passe et il s'arrête pas beaucoup, donc c'est pas très contraignant. Pour eux, et puis c'est plutôt joli à voir.
Ça leur plaît.
Et voilà, pour l'instant, ça plaît pas mal. Donc finalement, je trouve très facilement des terrains.
Il y a un véritable intérêt pour les viticulteurs, puisque du coup, ça leur évite de passer le tracteur pour désherber, etc. Donc, en plus d'amender le sol, puisqu'ils ont un troupeau de brebis qui vient amender le sol avec le fumier. Non, on n'appelle pas ça le fumier, si. Ouais.
On peut, voilà. Enfin, le migou. Mais,
le migou, enfin, localement.
Les déjections, mais... Voilà. Donc c'était moi l'idée, c'était de faire un projet un peu gagnant-gagnant où tout le monde pouvait s'y retrouver. Moi je paye pas de fermage, j'ai pas de location de terrain, etc. J'ai pas de contrat derrière, mais voilà, les gens savent où me trouver, ou maintenant arrivent très bien à me proposer des terrains. Donc ça marche très bien, et j'avais plutôt trop que pas assez. L'année dernière, au printemps, j'ai demandé à un collègue de me ramener des brebis, j'arrivais pas à venir à bout
de tous les terrains qu'on te propose.
Et pour les vignes, je peux pas aller chez tout le monde. J'ai le luxe de pouvoir choisir les zones. Donc ça, c'était génial. Sauf que c'est des zones de plaine, c'est des zones qui seront pas subventionnées à hauteur de ce que j'ai besoin.
Ouais.
Donc aujourd'hui, voilà, je pars en montagne manger des glands.
À contre-cœur de lâcher ce paradis pour aller se mettre dans des zones où là, tu vas pouvoir toucher des aides.
Voilà.
Sachant que tu as dit que tu allais pouvoir toucher des aides parce que tu te rapproches de la montagne, mais que moi, je lisais récemment le témoignage d'une femme qui est en Ardèche dans la montagne avec ses brebis, où là, pareil, les critères n'allouent pas d'aide parce que soi-disant, c'est trop sauvage et que là-bas, il n'y a rien à manger pour les bêtes. Donc maintenant, il faut vraiment trouver le lieu où ça correspond aux critères pour avoir les aides, etc. Donc ça vous oblige à vous...
Le modèle qui est défendu par la PAC, je ne sais pas qui l'écrit, mais c'est certainement des gens qui sont beaucoup plus dans le nord de l'Europe et qui ont l'habitude de voir des brebis dans des vertes prairies. Et quand on leur dit qu'une brebis mange même du chêne vert, mange du genêt, sont capables de manger à plus d'1,50 m du sol, ils ne connaissent pas ce modèle-là, ils ne l'aident pas. Jusqu'à présent, les glands font partie de la ressource qui est reconnue uniquement dans notre zone ici, un peu Cévennes.
Même les châtaignes.
Pas partout, les châtaignes. C'est quelque chose qui est en débat très souvent, de dire « Ah ben non, c'est pas une ressource pour vos bêtes ». Il y a clairement, quand il y a des sécheresses, heureusement qu'on a ça.
Ouais.
Donc...
La bergère dont je lisais le témoignage racontait que ses brebis, elle avait deux races. Une race qui savait prendre les châtaignes sans aucun problème, une race rustique, une race un peu moins rustique qui ne mangeait pas les châtaignes. Mais par contre, quand elle sortait les châtaignes, elle leur donnait à manger. Et finalement, elles ont appris. Et tout le troupeau a appris à manger les châtaignes, même celles qui étaient moins rustiques. Et du coup, se mettaient à les manger. Donc voilà, on voit bien comme des bêtes, enfin les humains et les animaux s'adaptent à leur territoire local. Et qu'il y a une absurdité à vouloir répondre à des décisions ou prérogatives qui sont prises de si loin qu'elles n'ont aucune connaissance du terroir.
Et puis, on nous pousse à être productivistes. On nous pousse à avoir des races d'animaux qui vont nous faire beaucoup de naissances dans l'année et du coup, qui ont des très gros besoins et pour lesquels, peut-être, ça ne sera pas adapté.
Oui, tout à fait.
Alors que de garder ces vieilles races rustique et local, c'est des animaux qui sont tout à fait adaptés. Moi, j'ai eu exactement le même cas avec des brebis qui ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait de manger. Et du coup, ces animaux adaptés, ils me feront peut-être qu'un agneau par an et ça me suffira largement
s'ils sont adaptés à
le faire. Enfin, pour moi, c'est le but. Par contre, oui, économiquement, si j'en avais deux ou quatre, ça serait mieux. Mais voilà, ce n'est pas le même modèle, ce n'est pas forcément beaucoup en extérieur, c'est beaucoup de céréales, enfin, c'est complètement autre chose. Mais c'est ce que en plaine, si vous voyez des troupeaux, c'est 1000 brebis et c'est des brebis qui n'ont pas moins de 2 agneaux par brebis et par an, quoi. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle agricole.
C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, on voit vraiment l'opposition entre un modèle agricole subventionné qui vient fournir toute l'agroalimentaire avec des filières longues, des économies d'échelle, avec des grosses exploitations, diminution des emplois et des agriculteurs, etc. Et vous, là, ce que vous proposez, c'est complètement autre chose. C'est de l'agriculture à taille humaine.
On aimerait bien être indépendant... De ces aides, vraiment, c'était un objectif au départ, parce que, pour finir là-dessus, l'autre scandale, c'est que c'est réformé tous les 4 ans ou au gré du temps, on ne sait pas toujours, on ne sait pas du tout ce qui va être mis dedans, et puis ça peut changer en cours de route, et nous, construire un modèle économique là-dessus, c'est impossible.
Mais bien sûr.
Alors que derrière, on veut s'installer, on fait un modèle économique qu'on nous demande, qu'on nous impose de tenir pendant 5 ans, si on demande certaines aides à l'installation. Donc moi, on me demande de faire un modèle économique viable pendant 5 ans, qui va être contrôlé, et qui, si je ne tiens pas, je peux être amené à rembourser ces aides-là, mais j'ai aucun possibilité de voir dans 5 ans quelles seront les aides que je peux avoir ou pas. Peut-être qu'en 2020, la PAC rechange et du coup, mon modèle sera complètement obsolète. Donc, pour moi, c'est encore là le scandale, c'est qu'on nous impose des règles qu'on change en cours de route et nous, on doit tenir les nôtres et l'État, entre guillemets, ne tient pas Christiane.
Alors, on peut imaginer qu'une des solutions, ça serait justement de constituer des regroupements de consommateurs pour venir soutenir justement ces petits producteurs que vous êtes et le nouveau modèle que vous proposez qui correspond exactement à cette demande qui est émergente et qui pousse de plus en plus d'avoir des produits sains, d'avoir des paysans sur nos territoires pour justement continuer d'entretenir le paysage et nous garantir l'accès à une terre saine et à des produits sains. Est-ce que ça se met en place? Qu'est-ce que vous observez? Ça suffit pas a priori, parce que de toute façon, il y a quand même le problème du pouvoir d'achat qui est pas suffisant pour vous payer des produits à la hauteur de ce qu'il faudrait si vous étiez indépendant. Mais est-ce que du moins, il y a quand même des initiatives qui se créent et qui vous soutiennent?
J'ose espérer que oui, je crois que oui.
Tu pourrais parler aussi de ce qui t'a permis de t'installer.
C'est voilà, parce que... moi je me suis installé grâce au financement participatif.
T'as présenté ton projet
donc,
aux habitants.
Voilà, on a présenté un projet, on a communiqué dans la presse, on a mis notre projet en ligne où moi j'ai passé 3 mois à faire de la rédaction sur qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire, où on voulait aller, quelle était l'idée.
Que l'enjeu c'était d'acheter ton troupeau.
Et voilà, et de financer le matériel. Et puis, on est allé sur Internet en se disant faut toucher le plus large possible, mettre toutes les chances de notre côté. On espérait 9000 euros et on en a récolté 16000.
Wow,
et essentiellement donc... sur des gens du coin. C'était vraiment beaucoup, beaucoup. Donc pour moi, c'était très encourageant et c'est du coup tout un réseau de personnes qui étaient bienveillantes envers mon activité parce que ils avaient mis ne serait-ce que quelques euros, ils avaient envie que ça fonctionne. Donc ça met vraiment une autre dynamique. Au départ, c'est difficile de l'impression un peu de demander la charité aux gens. Puis en fait. C'est aussi, ça montre que les gens ils sont prêts à s'impliquer si on peut leur expliquer qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi
on le fait. Et il y en a qui se souviennent, il n'y a encore pas si longtemps, effectivement, des derniers troupeaux de bergers qui étaient dans ces territoires où maintenant il n'y a plus personne. Donc je peux comprendre qu'ils avaient envie de revoir ça.
Oui, il y a peut-être un peu de nostalgie et de fantasme, mais pas que. Il y a aussi des gens qui s'engagent pour ça, de tout milieu et à hauteur de ce qu'ils pouvaient.
On continue cette émission avec David Sauté, lui aussi installé récemment comme paysan, maraîcher en ce qui le concerne, et c'est juste après ça.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Plus vite. de soleil à l'horizon. Ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Le bleu me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
Vous écoutez le chant des colibris et on parle aujourd'hui des nouveaux paysans qui essayent courageusement d'inventer de nouveaux modèles pour produire une alimentation saine et dans le respect de la terre au sein d'un système complexe qui leur pose bien des contraintes.
David Sauté, toi t'es maraîcher et tu vas peut-être pouvoir plus nous parler justement de ces coopératives de consommateurs, enfin peut-être pas coopératives mais regroupement à la fois de producteurs d'un côté et puis de consommateurs de l'autre pour pouvoir vous permettre de fonctionner.
Alors moi quand je me suis installé sur Mialet, sur une très petite surface, bah tout l'enjeu c'était de valoriser le mieux que je pouvais ma production et de diminuer au maximum mes charges. Donc je suis maraîcher mais je suis aussi pépiniériste parce que je produis tous mes plants et je produis aussi une partie de mes semences, je récupère le fumier à droite et à gauche, du coup je limite ça, je suis pas mécanisé donc je suis très peu dépendant du pétrole et la production que je fais, comment l'écouler le plus localement possible en la valorisant du mieux que je peux et j'ai rejoint dès mon installation, en fait, j'ai appris l'ouverture d'une biocoop à 10 km de chez moi. Je les ai contactés, on s'est rencontrés. Et le jour où ils ouvraient leurs portes, j'avais mes premiers légumes à récolter. Donc ça, c'est super bien.
Voilà. Belle synchronicité.
Super synchronicité. Et la manière dont j'ai trouvé mon terrain de la même manière. Donc je me suis dit, bon, David, là,
okay,
t'es sur
fluide.
Ta voie.
Ouais.
C'est assez fluide.
On n'a pas dit d'où tu viens à la base. T'es écologue.
Moi, je suis écologue de formation. J'ai bossé...
Tu peux nous redécrire c'est quoi écologue ?
C'est des gens qui protègent la nature ou qui essayent de protéger la nature. Moi, j'ai essayé de faire ça pendant 10 ans. Et je me suis rendu compte que j'étais aussi dans un système capitalisme d'aménagement.
On voit les deux autres qui se grattent le front, qui rigolent limite dans leurs mains. Protéger la nature.
Mais moi, en fait, je rigole parce que j'en ai d'autres.
Des écologues qui s'installent.
Des écologues et qui se disent, tiens, voilà, quoi, pour protéger la nature, en fait, je préfère gérer mon propre espace plutôt que le gérer pour le compte d'autres personnes qui me disent comment il faut faire.
Et toi, Thomas, pourquoi tu rigoles ?
Pareil, j'en ai rencontré. Ouais, c'est ce que tu viens de dire, protéger la nature, autant le faire chez soi, soi-même.
C'est ce qui t'a poussé à t'y mettre ?
C'est ce qui m'a poussé à m'y mettre, et ça va même un peu plus loin, parce que je me suis demandé comment est-ce que je peux continuer de protéger la nature et en même temps prendre soin de l'homme.
Ouais.
Et pour moi, la logique, c'était de produire de la nourriture saine, qui respecte la terre, mmh. et qui respecte l'homme. Et des légumes parce que je suis plutôt végétarien, parce que pour moi c'est plutôt la base de l'alimentation, mmh. c'est plutôt du légume. Et que aussi quand on s'installe, si je sème un radis, un mois plus tard je peux le récolter. Mmh. Si je commence dans de l'élevage ou quoi, il y a des contraintes qui sont complètement autres. Ouais. Et du coup, ayant besoin aussi d'avoir un revenu assez rapidement... je suis parti sur du légume plutôt que sur des arbres fruitiers, par exemple.
Okay.
Et je fais ça depuis 3 ans.
Et alors, au bout de 3 ans, quel bilan tu ferais là au bout de 3 ans de ton activité ? Comment t'arrives à en vivre ? Sur quoi tu te reposes ? Ouais. Quels sont tes appuis, justement, dans cette idée d'un nouveau modèle ? Qu'est-ce que tu...
Je suis parti avec une très forte énergie, beaucoup de conviction d'aller sur des pratiques écologiques très fortes.
Oui.
Donc mes pratiques vont bien au-delà du label AB qui au final
est assez souple.
Assez souple, ouais. Garantit ouais. certaines choses, mais garantit la santé du consommateur, mais garantit pas du tout la santé de la terre qui est cultivée.
Aïe, ouais, dis donc, de t'entendre dire ça, c'est fort. Ouais. Comme déclaration.
Donc je suis allé plus loin, et du coup en me confrontant aussi aux problématiques de production et surtout de temps de travail en fait.
Ah.
Et moi la grosse problématique tourne autour du temps de travail, parce que vendre des légumes en bio aujourd'hui, c'est pas
il y a pas de souci de déboucher,
ou en tout cas peut-être j'ai eu de la chance, j'ai trouvé les bons circuits. Mais moi, la problématique, c'est d'arriver à travailler moins.
En gros, tu travailles combien d'heures par semaine là, en ce moment ? On va dire une moyenne
en
sur
ce
les
moment,
3 ans.
Ça va.
Non, en ce moment, ouais, c'est l'hiver.
Je dirais que sur les 3 ans, je pense que j'arrive à m'en sortir à 35-40 heures par semaine, parce que j'ai une période assez creuse l'hiver. Mais en face de 35-40 heures par semaine, il n'y a pas forcément un SMIC.
Oui, c'est ça.
Aussi.
Ouais.
Et la problématique, c'est aussi que donc depuis 2 ans... Je livre aussi des AMAP depuis 2 ans. Donc du coup, ça veut dire livrer des légumes toute l'année. Donc ça, c'est super, parce que ça assure à l'agriculteur un revenu régulier. Mais en fait, quand on est tout seul... C'est un travail monstre. Ça autorise très, très peu de congés. Et j'ai pas d'animaux. Ce serait pire avec des animaux, je pense. Et du coup, moi, la problématique se joue autour du temps. Et le soir, tu fais de la compta, tu fais ce genre de choses, tu fais des papiers. Et moi, j'aimerais bien pouvoir bosser à plusieurs.
Ouais,
j'ai rejoint les Cévennes pour un projet collectif qui, au final, s'est pas fait. Et du coup, de me lancer tout seul, je me suis fait des armes. Mais là, je vois un peu les limites.
T'épuises, quoi.
Parce que je suis un nouveau paysan qui a pas envie, en fait, de passer sa vie. Avant, on se posait peut-être pas la question, et moi aujourd'hui, j'ai aussi pas mal de loisirs d'activités que j'ai envie de maintenir, et c'est important. Et du coup, comment jouer avec cet équilibre-là ?
Comment trouver cet
équilibre ? Et là, c'est un peu le challenge pour moi pour
les années à venir.
Voilà, pour les années à venir, ouais.
En gros, t'as du travail à partager, mais alors à foison, mais t'as pas de finances à partager. Ça serait ça la situation.
Il semble quelqu'un qui accepte de partager des finances faibles, ouais.
Ouais. Du coup, en termes de limites, justement, de vos activités agricoles, donc il y a ça, ce temps de travail qui est gigantesque face à un revenu qui est très limité, l'accès aux terres, on l'a vu, qui est difficile. Est-ce que vous voyez d'autres choses ?
Moi, je pense qu'il y a aussi un point qui est important. Aujourd'hui, moi, j'arrive à vendre mes légumes, mais il y a quand même, je vois l'arrivée aussi de la bio-industrie,
Merci d'en parler.
À l'échelle vraiment industrielle, qui va avoir un impact très fort aussi sur
les
prix de vente. Et du coup, comment est-ce que nous, maraîchers, agriculteurs bio, on va réussir et continuer à pouvoir se démarquer, parce qu'on fait une agriculture qui est plus de l'agroécologie, qui va beaucoup plus loin. Ouais. Et comment, sur un étal, en fait, les consommateurs vont pouvoir le voir.
Comprendre une différence de prix et la différence de qualité entre ce que vous proposez d'un produit qui vient d'à côté et les mêmes produits, soi-disant même, mais qui vient de l'autre bout de la planète, en bio certes, mais qui n'est pas du tout produit dans les mêmes conditions. Et tu commences à avoir des idées de ça, de comment faire pour se démarquer?
Bah aujourd'hui, je suis dans le système AMAP où les gens savent comment je travaille. Donc, il n'y a pas besoin de... Dans le système boutique, le système boutique où je livre une biocoop, c'est compliqué, les gens ne le voient pas. Heureusement que les gens avec qui je travaille sont très engagés pour s'approvisionner sur du local et faire moins de marge sur les produits locaux que sur les produits qui viennent de plus loin, ce genre de choses. Mais
Les consommateurs peuvent aussi avoir un vrai rôle auprès de leur magasin bio pour insister sur le fait qu'ils veulent des produits locaux et pas seulement des produits bio. Parce qu'effectivement, les produits bio, certes, ça a tout un tas d'intérêts, mais il y a aujourd'hui une bio industrielle, comme tu dis, qui est produite dans quasi les mêmes conditions que l'agriculture conventionnelle, si ce n'est qu'il y a quelques produits en moins, mais c'est les mêmes logiques qui sont en jeu derrière, avec les mêmes conséquences désastreuses pour les transports, les coûts écologiques, etc. C'est important que les consommateurs soient aussi engagés sur le bio que sur le local. Et ça, pour l'instant, c'est un combat encore à mener en termes de sensibilisation et de prise de conscience.
Il y a du chemin à faire et même dans des réseaux engagés, moi, je me rends compte... Je suis dans un village de 600 habitants, je fais un petit peu de vente à la ferme. Finalement, il y a très peu de gens en fait du village qui viennent m'acheter des légumes. Je propose en saison 2 ventes à la ferme le soir. Alors peut-être parce que le soir on va au supermarché acheter du papier essuie-tout, je ne sais quoi, et on en profite pour acheter ses légumes parce que on est dans des modes de vie où le temps est compté.
C'est ça.
Ou je ne sais quelle autre raison. Et si j'étais un maraîcher qui faisait vraiment de l'agriculture intensive en bio, on me reprocherait certainement dans mon village de mettre des serres et d'avoir une merde plastique. Donc là, du coup, il y a tout un truc que j'arrive pas vraiment à saisir. On est dans des régions où il y a quand même pas mal de gens qui sont quand même militants, où on pourrait penser que ça.
T'essayes de les toucher à cet endroit-là, toi?
On a essayé, hein. Quand je me suis installé pendant 2 ans, on a organisé un marché festif sur la ferme où je travaille, avec des festivités pour faire venir vraiment les gens du coin,
leur faire
découvrir. Ça prend pas. Alors peut-être que je suis un mauvais commerçant, ou peut-être que j'ai pas assez de légumes et qu'il faudrait que j'ai des fruits, qu'il faudrait que j'ai un peu de lait, tout, qu'il faudrait que j'ai un petit peu de tout.
C'est ça, c'est que face à un mode de vie qui met en avant vraiment le côté pratique, le tout en un, comme tu dis, effectivement avec les supermarchés, c'est dur de lutter. Ouais, c'est dur de lutter. T'as bien cerné la problématique. Ouais, les gens courent après le temps et peut-être c'est ça qui gagne. Mais effectivement, c'est vraiment du ressort de tout à chacun de prendre le temps aussi, de faire des choix en termes de consommation qui soient pertinents. Ok, merci. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui veut rajouter quelque chose sur tout ce qu'on vient d'aborder? Peut-être, je ne sais pas, des conseils au futur?
Ouais, des conseils, je ne sais pas. Après, moi, pour rebondir sur ce que vient de dire David, en fait, quand on parle de nouveaux paysans... Je pense que souvent, les gens, ils ont envie de créer des systèmes où ils sont très autonomes. Donc, on a dit, voilà, quoi, c'était quand même aller plus sur les filières courtes, etc. Après, il ne faut quand même pas oublier que partir dans des systèmes comme ça, ça veut dire qu'il faut avoir de plus en plus de compétences. C'est-à-dire qu'avant, un paysan, c'était quelqu'un qui produisait.
Oui.
Et
oui.
Ça s'arrêtait là.
Oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, quand alors on peut créer des nouveaux systèmes, effectivement, diversifiés, etc. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'en plus d'avoir la compétence de production...
Il faut qu'il soit commerçant.
Il faut être commerçant.
Qu'il soit
communicant. Si on veut aller chercher de la valorisation, des fois, on passe aussi par la case transformation.
Ouais.
En plus de ça, l'agriculture, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de paperasseries. Donc
ouais,
c'est
donc tout
aussi
l'aspect administratif,
des contraintes
aussi.
Administratives. Ouais. En fait, un paysan, c'est vraiment quelqu'un qui a...
Multicasquette,
multimétier. Après, réussir à s'en sortir tout seul au milieu de tout ça, soit il faut être un peu Superman, soit il faut être super organisé. Donc après, c'est vrai que les initiatives collectives, là, vont pouvoir venir faire des choses. Et là, dans notre région, il y a quand même pas mal de choses qui se sont faites. Alors pour la commercialisation, on peut citer par exemple les boutiques paysannes, c'est-à-dire des producteurs qui se sont regroupés à un moment donné. Nous, ça fait Dans le Gard, à côté d'Anduze, il y a une boutique qui s'appelle Terroir Seven qui existe depuis 30 ou 40 ans. Mmh, mmh. Et voilà, et qui regroupe en fait différents producteurs, locaux, des gens qui font du fromage, des gens qui font des légumes, des gens qui font du miel, des gens qui font des produits transformés à base de légumes, et dans lesquels finalement il y a aussi une diversité d'offres, et finalement les consommateurs ils peuvent aussi se retrouver dans des endroits comme ça. Mais c'est vrai que, après il y a quelques spots qui sont comme ça. Alors c'est vrai que c'est une solution, et en même temps, il faut l'énergie de créer des collectifs pour pouvoir faire ça. Quoi. Et là, c'est aller jusqu'au consommateur, et c'est vrai que de l'autre côté aussi, il faut que les consommateurs puissent se prendre en main aussi, c'est eux qui font leur choix, et éventuellement aussi se regrouper pour se rapprocher de producteurs, comme ça a pu être le cas à un moment donné dans les mouvements AMAP. Quoi.
Une dernière question, des fois les consommateurs se regroupent, mais il n'y a pas assez de production. Je vous vois faire la moue, vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Si, du côté du maraîchage et des légumes, c'est vrai, non ? C'est une réalité.
C'est la problématique que j'ai aujourd'hui avec une AMAP où je suis contraint d'arrêter, c'est que les AMAPiens veulent un panier de légumes en fait toute l'année, ce qui est
y compris l'hiver quand il n'y a pas d'activité.
Et moi, les contrats AMAP, c'est souvent deux contrats de 6 mois, un contrat été, un contrat hiver de 6 mois. Quand je suis sur un contrat de 6 mois, et derrière, il y a 8 mois de boulot, parce que quand je sème, quand je vais vous mettre dans un panier un oignon au mois de juillet, je l'ai semé au mois de janvier. Il y a 7 mois qui se sont passés. Et du coup, produire des légumes 12 mois sur 12, en tout cas dans mon cas, qui suis tout seul sur une petite surface, c'est mission impossible.
Sans serre, etc.
Donc,
c'est pas possible.
Donc, c'est de s'associer avec d'autres maraîchers. Oui. Donc, je l'ai fait sur une AMAP, mais ça se construit petit à petit. Mais c'est sûr que tout seul, c'est trop complexe. Y a besoin d'avoir plusieurs marchés qui se mettent ensemble pour peut-être certains qui font les jardins d'hiver, d'autres les jardins d'été. Mais
et en gros, qu'est-ce que vous rencontrez au sein de vos AMAP ? Est-ce que vous avez trop de demandes ? Est-ce que vous avez des gens qui voudraient des paniers, puis vous êtes obligé de leur dire, désolé, là, nous, on est à saturation, on ne peut pas fournir de clients supplémentaires, ou s'il y aurait encore...
En tout cas, les AMAP que je livre varient entre 12 et 20 26 paniers. Donc ça, c'est des choses que j'arrive à gérer et que je fais en binôme avec un autre maraîcher l'été. Donc j'ai que des livraisons tous les 15 jours, donc je le gère. Par contre, récemment, j'ai vu qu'ils cherchaient... Il y a plein de maraîchers qui ont arrêté des AMAP du côté de Nîmes et tout. Donc du coup, il y a visiblement un manque de producteurs.
On peut le comprendre quand on voit la situation dans laquelle vous êtes. On peut comprendre que les gens s'essoufflent et qu'effectivement ils tiennent bon pendant quelques années et puis qu'à un moment donné ils lâchent. Thomas, tu auras le mot de la fin, je pense.
Moi, pour rebondir sur les AMAP, moi je m'amuse à essayer d'expliquer que même si je fais de la viande, c'est aussi un produit de saison et j'en ai pas toute l'année. Et mes agneaux, ils naissent à une date et ils seront prêts à une autre, et entre temps il n'y en aura pas. Donc je passe à peu près 6 mois par an à dire à Pâques, ou à partir d'eux, et puis après pendant 3 semaines à partir de Pâques je cherche mes clients partout, parce que je leur ai dit toute l'année mais ils ne sont pas là à ce moment là. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce qu'on peut en avoir, on veut en avoir, etc. Moi j'ai pas forcément sur moi un carnet d'adresses à tenir à jour pour noter les adresses de tout le monde. Et après, pendant 3 semaines, un mois, je cherche tout le monde pour vendre mes colis. J'y arrive parce que j'ai des petites quantités, mais il y a aussi quelque part... Moi, je trouve que c'est important que les gens se souviennent qu'il y a aussi des saisons pour les produits et pas que pour les légumes.
Merci de nous rappeler ça, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une déconnexion entre le monde bureaucratique des aides agricoles et puis la réalité des paysans. Mais on voit aussi qu'il y a un gros décalage entre les attentes des consommateurs et la réalité du travail paysan. Et que nous aussi, finalement, on vit aussi sous perfusion. Si vous vivez sous perfusion des aides agricoles, nous, les consommateurs, on vit totalement sous perfusion d'une agro-industrie produite à péta ou schnock sur le dos de personnes qui sont payées une misère. Et qu'effectivement, si on veut revenir à un mode de fonctionnement plus sensé et plus humain, il va falloir aussi que nous, on reprenne contact avec la réalité en tant que consommateurs et qu'on prenne nos responsabilités. Merci beaucoup de votre présence les uns et les autres. Et puis, merci à nos auditeurs. Le mois prochain, on parlera d'auto-éco-construction dans le champ des colibris et au jeudi des colibris. C'est comme d'habitude le 3e jeudi du mois à Rochebelle, à Alès. Merci.
Merci. main salie. Ça y est, l'histoire s'arrête ici. Sans dire la fin de l'incendie, l'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Toutes les émissions sont en podcast sur le site au service du vivant.info. Et pour nous écouter sur les ondes, rendez-vous le premier dimanche du mois à 9h sur RGO.
Dans ma tête, il y a du cœur. Dans mon cœur, il y a de la vie.